L'information se poursuit. Vous écoutez toujours le studio Kalangou. Bienvenue à tous. Il est 18h, voici le sommaire. La sécurité nucléaire dans l'industrie d'extraction de l'uranium, thème d'un atelier de formation qui s'est ouvert ce matin. Les détails avec Malam Issa Rabiou, membre du comité technique scientifique consultatif de la ANEA. Début ce matin des examens du brevet de technicien supérieur BTS au CG25. Ils sont environ 4500 candidats, tous secteurs confondus à concourir. Témoignage du candidat dans ce journal. Célébration de la Journée internationale de l'allaitement exclusif, un médecin nous dira pourquoi il faut privilégier ce type d'alimentation chez le nourrisson. Enfin, dans la partie magazine de cette édition, nous parlerons de la rencontre entre les membres du gouvernement et les jeunes en prélude de la Journée internationale de la jeunesse. Messieurs, dames, bonsoir. Ouverture ce matin sous la présidence du ministre des Mines et de l'Industrie, Moussa Hassan Barazé, à l'hôtel Gawé de Niamey, d'un atelier de formation sur la sécurité nucléaire dans l'industrie d'extraction de l'uranium au Niger. Cet atelier de 5 jours sera assuré par des experts de l'Agence internationale à l'énergie atomique. Madame Issa Rabiou, membre du comité technique scientifique consultatif de l'ANEA, la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, nous donne plus de détails. Il est au micro de notre reporter Omar Hamma.
La présidente de la ANEA s'est investie à faire toutes les formations nécessaires pour une mise à niveau de tous les membres du CTSC. Donc ça, ce n'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs formations et particulièrement celle-là, elle concerne la sécurité nucléaire dans les industries d'extraction de l'uranium. Donc cette formation ne s'adresse pas seulement aux membres du comité technique scientifique et consultatif, non. Elle concerne également tous les fonctionnaires qui ont un lien avec les industries extractives. Donc vous allez voir tous les cadres régionaux de l'environnement, des ministères du développement industriel sont là. Ils ont fait le déplacement. Il y a une forte délégation venue d'Arly. Donc c'est des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont venus pour nous former pendant 5 jours donc sur tous les aspects liés à la sécurité nucléaire dans les industries où on extrait l'uranium comme Comina, comme Arly, comme Somaïr, comme Somaïr.
Madame Issa Rabiou, membre du comité technique scientifique consultatif, la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique. À l'instar de plusieurs pays à travers le monde, le Niger célèbre aujourd'hui la Journée internationale pour l'allaitement exclusif, une méthode qui depuis plusieurs années est au cœur des campagnes de sensibilisation destinées aux femmes allaitantes dans toutes les formations sanitaires du pays. Et qu'est-ce que c'est que l'allaitement exclusif? Quels sont ses avantages? Élément de réponse avec le docteur Iliassou Idi Maïnassara. Propos recueillis par Gungu Mamandantani.
L'allaitement exclusif, c'est le fait d'allaiter un enfant depuis sa naissance jusqu'au minimum 6 mois sans adjonction de quoi que ce soit. Pas de l'eau, pas de lait artificiel, pas d'autres produits, uniquement le lait maternel. C'est ça qu'on appelle l'allaitement exclusif. L'allaitement exclusif a beaucoup d'avantages. Il comporte beaucoup d'anticorps. Ça renforce l'immunité de l'enfant et il contient toutes les vitamines que vous connaissez, toutes les substances nutritives qui peuvent participer au développement harmonieux de l'enfant sur le plan physique, psychique, moral, etc. C'est elle qui donne l'affection, c'est elle qui est affectif, qui protège l'enfant de tout ce qui est infection et tout ce qui a un lien avec un problème de santé. Le lait de la mère facilite la digestion. En un mot, le lait maternel est le meilleur lait. C'est un lait qui assure la protection de l'enfant.
Vous venez d'entendre le docteur Iliassou Idi Maïnassara. Demain, 2 août, sera officiellement réceptionné l'hôpital général de référence du Niger. Cet hôpital offert par la République populaire de la Chine a coûté près de 45 milliards de francs CFA avec une capacité de 50 lits. Il offrira une qualité de soins n'existant pas dans les hôpitaux du pays au Niger, ce qui fera de lui un hôpital de référence. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le ministre de la Santé publique, Kala Moutari, lors d'un point de presse qu'il a animé ce matin, propos recueillis par Nafissa Adamou.
Cet hôpital va contribuer à rapprocher les centres de santé de nos populations parce que nous évacuons beaucoup de nos compatriotes à l'étranger et cet hôpital-là viendra pour atténuer ce phénomène. Cet hôpital sera géré dans le cadre d'une coopération plus large entre le Niger et des pays amis tels que la Chine qui est notre premier partenaire et qui est dans le domaine de la coopération médicale, qui a une histoire, qui a un apport inestimable dans le système de santé du Niger. Il y aura les Turcs dont nous avons demandé l'aide, il y aura des Cubains dont nous avons aussi demandé l'aide. Pour cet hôpital-là, nous allons gérer les accompagnants. Nous avons pris des dispositions pour qu'il y ait des infirmiers dans la salle même des malades et qu'ils restent tout le temps. Un malade n'a pas besoin d'accompagnant pour passer la nuit. L'appel que je vais lancer à l'endroit de la population, c'est d'être compréhensif. Il nous faut être disciplinés si nous voulons réussir la mission que nous avons donnée à ce centre-là. Il faut que nos spécialistes, il faut que nos médecins, il faut que tous les agents du corps de la santé se mettent à l'esprit que nous ne devons pas échouer et que nous devons changer nos systèmes de gestion de nos centres de santé si nous voulons rester efficaces, si nous voulons être un modèle.
C'était le ministre de la Santé publique, Kala Moutari. Le ministre de l'Enseignement supérieur a lancé ce matin les examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État au CG25. Pour cette session 2016, ils sont 4563 candidats, tous secteurs confondus, répartis dans les deux centres prévus à Niamey et Maradi, selon Dr Ali Moukaila, président du jury numéro 10 de Niamey. Toutes les conditions sont réunies pour que ces examens se déroulent normalement et des mesures ont été prises pour empêcher ou sanctionner les éventuels cas de fraude. Il est au micro de Moussa Hassan.
Nous avons un effectif de 483 candidats répartis dans 14 salles avec 28 surveillants. L'organisation matérielle et humaine, tout est en place. En tout cas, jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de problème. Les surveillants ont répondu présent. Et quant aux candidats, bon, il y a quelques cas d'absence qu'on avait enregistrés. Et là, nous allons remonter ça auprès de la hiérarchie et consigner ça dans nos rapports. Si vous avez bien suivi le message du ministre de l'Enseignement supérieur, il leur a bel et bien dit que tout cas de fraude ou de corruption ne serait pas pardonné. Nous aussi, nous avons relayé l'information dans chaque salle. Ils n'ont qu'à se contenter de ce qu'ils ont appris. Et j'ose espérer qu'on n'aura pas de cas de fraude. Parce que les enseignants qu'on nous a amenés cette année, c'est des professionnels, c'est pas des amateurs. Ils ont largement suivi les cours. Tout ce qu'on leur a demandé, pour l'instant, ils ont vu ça. Et je pense que les épreuves, c'est les mêmes enseignants qui les proposent.
Les candidats de la section gestion des ressources humaines que nous avons rencontrés trouvent la première épreuve abordable, malgré qu'il n'ait pas eu plusieurs sujets au choix. Écoutons leur témoignage.
Nous avons trouvé les épreuves un peu abordables, même si par ailleurs on a pu avoir un seul sujet là. Par rapport aux années passées, au moins il y a jusqu'à 3 sujets, on peut dire que oui. Si on commet une erreur là, c'est un peu fatal. C'est pas beaucoup inquiétant. Et bien, si ça continue comme ça, c'est la réussite, Inch'Allah.
Bon, en tout cas, c'est un peu abordable. Par rapport à l'épreuve, on s'est dit Dieu merci quand même. Bien que ce qu'on a vu, on a demandé le compte rendu. Ce qu'on n'a pas l'habitude d'amener, donc les étudiants ici, je suis certain, ils sont surpris quand même de voir ça. Nous pensons que ça ira, Inch'Allah. Et surveillants soient là. Depuis hier, nous sommes venus pour voir les salles. Après ça, toutes les affiches ont été affichées. Donc, je dis que quand nous, on est optimiste quand même. Je ne pense pas s'il y aura des fraudes parce que des mesures ont été prises.
Propos recueillis par Moussa Hassan. Le Conseil des ministres du vendredi 29 juillet dernier a procédé à la nomination de responsables de services des contrées de l'État. Ainsi, 60 préfets ont été nommés sur les 63 préfectures que compte le Niger. Parmi ces préfets, un officier des forces armées nigériennes, le lieutenant Bourayma Seni, nommé préfet de Bosso, l'un des départements de la région de Diffa, cible fréquente d'attaques du groupe Boko Haram. Il ressort également du Conseil des ministres la nomination d'Ousmane Moussa, instituteur au poste de gouverneur de la région de Dosso. En juin 2016, un arrêté ministériel a fixé le prix du Hajj 2016 à 200 276 250 000 francs CFA. Ce matin, le réseau des associations de consommateurs du Niger, le RASCONI, s'est rendu à l'agence Babamaka pour vérifier si ces tarifs étaient respectés et si cette agence avait effectivement remboursé les surplus aux pèlerins. Maman Nouri, représentant l'association de défense des droits des consommateurs, se dit satisfait de découvrir que l'agence a remboursé près de 500 millions à leurs clients. Il est au micro de Moutari Mamadou.
Pour se conformer à l'arrêté, il faut restituer aux pèlerins, en tout cas le trop perçu. Et dans ce cadre, l'agence Babamaka, nous avons constaté un engouement très intéressant de remboursement des pèlerins. Actuellement, ils ont remboursé au-delà de 500 millions de francs CFA aux pèlerins, qui est équivalent au trop perçu par rapport au prix du Hajj fixé. Alors c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus pour avoir la confirmation. Ça nous a été confirmé et c'est pour nous une occasion, en tout cas, de les féliciter, de les remercier par rapport aux positions réglementaires et surtout de penser aux pèlerins qui ont investi tous leurs efforts pour faire des économies, pour aller au lieu saint de l'islam, au Hajj. C'est toutes les agences qui sont concernées, étant entendu que c'est un arrêté ministériel du juin 2016 fixant le prix du Hajj à 2 076 250. Donc ça concerne toutes les agences reconnues au Niger, les agences de voyage pour le pèlerinage et la Umrah.
Propos recueillis par Moutari Mamadou. Le Conseil supérieur de la communication a rendu public ce matin deux rapports sur le monitoring des médias. Quel est le contenu de ces rapports? Abdourahman Ousmane, président du CSC, répond. Il est au micro de Lawatou Ibrahim Gado.
Le premier rapport concerne le monitoring de l'accès équitable des partis politiques, des syndicats, des associations et des citoyens aux médias publics en période hors électorale.
Il y a quoi dans ce rapport?
Dans ce rapport, il y a le traitement de l'ensemble des demandes de couverture que le Conseil supérieur de la communication a reçues. Le Conseil les a traitées et a délibéré en accordant soit la couverture gratuite pour les activités qui relèvent donc de la couverture gratuite et un accès payant pour les autres activités. Le deuxième rapport, lui, porte sur le monitoring des médias publics et privés pendant les élections présidentielles et législatives de 2016.
Et il y a quoi dans ce deuxième rapport?
Dans ce deuxième cas, il y a les résultats de l'accès des 15 candidats à l'élection présidentielle et des 28 partis politiques qui ont pris part aux élections législatives.
Propos recueillis par Laratou Ibrahim Gado. Sport, football à présent. Fin hier après-midi au stade Lawandidi Manzo de rencontre de la phase finale du championnat deuxième division. C'est le Racing Football Club de Niamey qui a battu Jongorzo FC de Maradi par un score de 4-2 à l'issue d'une séance de tirs au but. Ainsi, le Racing Football Club de Niamey monte en première division. Jongorzo FC de Maradi rencontrera en match de barrage l'Espoir FC de Zender le 6 août prochain à Tawa sur terrain libre. À présent, la partie magazine de ce journal. Le Conseil national de la jeunesse a initié ce matin une rencontre entre les membres du gouvernement et les jeunes. Voici ce qui ressort de cette cérémonie. Il s'agissait pour les jeunes de saisir cette occasion pour exposer leurs préoccupations à l'ensemble des ministres présents, selon le président du Conseil national de la jeunesse, Aliou Oumarou. Le Niger est l'un des pays les plus jeunes au monde. La jeunesse représente plus de 75% de la population, un potentiel qui doit être exploité par les autorités, affirme Aliou Oumarou.
Les jeunes ont besoin de l'emploi parce que après les études, la famille attend aussi un retour. Donc les jeunes souffrent de manque d'emploi. Les jeunes ont besoin d'infrastructures pour s'informer, pour se former. Les jeunes ont besoin de la paix et de la sécurité. Vous savez que quand il y a l'insécurité dans le pays, les jeunes sont ceux-là qui payent le plus lourd tribut. Les jeunes ont besoin d'accompagnement parce que les jeunes entrepreneurs, il faut nécessairement qu'il y ait un fonds de garantie.
Parmi les jeunes qui ont répondu présents à cette invitation, des jeunes ressortissants de DIFA qui, à travers leurs représentants, ont interpellé les membres du gouvernement.
C'est pour cela que nous allons commencer d'abord à demander au ministre ici présent de créer les conditions pour créer ce genre de cadre dans la région de DIFA où la jeunesse en partie est marginalisée, où la jeunesse est en train de prendre des activités qui ne sont pas soutenues. Ces jeunes des régions de DIFA qui sont en partie non scolarisés, il n'y a pas des activités. C'est qu'il se trouve que ces jeunes-là sont en chômage.
Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Salih Souada, l'avenir appartient à une jeunesse consciente de son rôle dans le processus de développement. Un processus qui doit être soutenu par l'engagement des autorités.
Aujourd'hui, vous avez vu l'ensemble, les ministres qui ont répondu présents, parce que chacun de ces ministres est porteur d'une partie de la politique de la jeunesse, parce que nous avons décidé de faire intervenir l'essentiel de nos départements ministériels pour qu'ils puissent prendre en charge les questions de la jeunesse. Et nous avons réactualisé la politique nationale de la jeunesse en 2015 pour prendre en charge les besoins émergents de notre jeunesse. Aujourd'hui, le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre cette politique-là à travers tous les départements ministériels qui sont en charge, en tout cas, de cette politique-là.
Cependant, le ministre de la Jeunesse des Sports, Salih Souada, tout comme le président du Conseil national de la jeunesse, Aliou Oumarou, sont convaincus qu'aucun développement n'est possible sans un changement de mentalité. Diallo Mariama Kenda, Studio Kalangou. Fin de cette édition, retrouvez Mokhtar Amadou pour dans le forum de Studio Kalangou.